Soyez les bienvenus avec une arrivée à quatre bouts d'un bouge. Guillaume Guiz, Albert Algout, Daniel Morin, Charles Ornette, qui accompagne le piano, et notre invité Pierre Bellemare. Pierre Bellemare. Pierre Bellemare, ça va pas.
Dis donc, il y a des tons très différents. Hein,
n'importe quoi.
Leïla, calme-toi.
Je suis ravi de vous accueillir, Pierre. Vous savez toute l'affection que je vous porte et je suis d'autant plus ravi que l'actualité est dense pour vous. Il y a un livre chez Flammarion, il y a le nouvel almanach chez Grund, il y a un album et c'est pas la première fois que vous chantez. Et on va en écouter des extraits. D'abord, la première question, c'est comment allez-vous ?
Ben écoutez, ça va.
En pleine forme, je suis ravi.
Enfin, en pleine forme, bon, j'ai mon âge, quoi, tout simplement. Bon, je suis dans ma 88e année.
Vous n'y faites pas.
Le début de l'adolescence.
Je nous souhaite à tous, d'abord, un, d'y arriver, et deux, d'être dans cette forme. Savez-vous pourquoi, Maréchal Ganache, nous avons invité Pierre Bellemare ?
Affirmatif. Tout d'abord, parce qu'à la différence de votre petite troupe, Nagui, qui pour moi est bien plus une bande de salopards qu'une bande originale, j'ai le respect des vétérans du PAF. La première fois que j'ai vu Pierre Bellemare à la télévision, c'était à mon retour d'Indochine, en 1954, le jeu Télématch.
Vous vous souvenez, Pierre ? Oui, très bien.
J'étais là. Je n'ai donc pas partagé votre ironie, monsieur Nagui. Quand avant l'émission, vous m'avez glissé à l'oreille, je vous cite, « Maréchal, pour être sûr que Pierre Bellemare arrive jusqu'au studio, vous devriez lui prêter votre fauteuil roulant et votre déambulateur et tout le reste. »
Jamais de la vie. Jamais.
Faux cul. Passons sur cet humour gérontophobe, d'autant que monsieur Bellemare a une actualité aussi chargée que l'haleine d'un gauchiste de Radio France un jour de grève. Et Dieu sait... Ah, bon. En effet, il vient nous présenter des livres que vous venez d'évoquer, et surtout un magnifique pot pourri, un florilège de chansons. Balade au fil du temps, composée de 11 chansons qui enchantèrent sa jeunesse et la mienne, de Mouloudji, à Georges Brassens, en passant par Georges Hulmer, station de métro, Pigalle, Serge Reggiani, mon enfant, mon amour. Dans le livret de ce disque que j'ai là,
c'était pas un montage. Hein.
Oui, c'est
un livret, oui, absolument.
Vous évoquez, cher Pierre Bellemare, l'après-guerre. Mais quoi de plus triste pour un militaire comme moi, dont la carrière fut aussi glorieuse que sanglante, que l'après-guerre ? Et quoi de pire pour moi, en 1954, on a dit la date tout à l'heure, de retour d'Indochine, où les Viettes m'avaient humilié jusque dans ma chair, quoi de plus terrible que d'entendre Boris Vian chanter Le Déserteur, dont je déplore solennellement ici que vous ayez repris cette complainte, qui reste tout de même une chanson pour Lopette et qui exalte la lâcheté d'un gars qui n'a rien dans le froc. Mais passons. Car j'avoue que votre disque, monsieur Bellemare, m'a donné envie d'enregistrer mon propre pot bien pourri, qui pourrait commencer par le boudin, autant qu'un contre les viettes pour chanter comme eux, pour arriver évidemment à un de mes plus grands tubes, on est chez nous. Une compile.
Ah, je m'attendais à un papa et une maman. Vous
êtes oui, un bonus. Papa et une maman. Une compile, d'ailleurs, faites le joli cœur, monsieur Nagui, mais qui vous donnerait peut-être l'idée de m'inviter pour rehausser le niveau de votre taratata. J'ai également apprécié almanach de Histoires extraordinaires. Oui. Un ouvrage qui permettra à vos auditeurs, mon cher Nagui, d'enrichir leurs connaissances en se demandant par exemple quel est le gentilé, c'est-à-dire le nom, des habitants de Villedieu-les-Poêles ou de La Châtre. Et en découvrant les charmes...
Je ne sais pas, les châtrés.
Oui, les castrés.
Les castrés.
Non, alors, c'est un castre. Il y a aussi d'autres conseils futés. Comment choisir son matelas, lustrer le cuir de vos chaussures avec une rondelle de concombre, sans oublier des citations, dont celle de Hanouille à la date du 12 juillet, qui fera plaisir à Leïla. Les femmes sont comme la soupe, il faut pas les laisser refroidir. Bref, et j'en aurais fini.
C'est Hanouille.
Pierre Bellemare, oui, bien sûr.
Avant-hier.
Pierre Bellemare, Nagui est notre invité, enfin le vôtre surtout, pour évoquer cet album et cet almanach aussi attrayant qu'indispensable. Mon dentier se décroche. Donc, des cadeaux de Noël idéaux, exactement comme un autre livre que je vous recommande et que je vais d'ailleurs offrir à Pierre Bellemare. Le dictionnaire amoureux de Tintin.
L'excellent Albert Algout chez Plomb.
De mon ami Albert Algout, un garçon dont j'apprécie l'immense talent, l'humour, mais aussi la modestie épatante. Un type qui en a dans le froc. Mais qui n'est pas du genre à profiter de l'antenne comme un salaud pour faire la réclame de ses propres ouvrages.
Ah non, non.
Et d'ailleurs, dernière info, le mercredi...
Ce qui est totalement illégal, je rappelle.
C'est scandaleux. Oui. Il s'y refuse. D'ailleurs, le mercredi 22 décembre à midi, il dédicacera son livre dans le hall de Radio France. Alors
c'est
là, c'est légal, c'est autorisé par la radio. Ils me l'ont demandé.
Très bien,
voilà,
très bien.
Le 22, il sera là.
Très bien.
Albert Algo, et je vous l'offre, Pierre Belmar.
Merci, Albert.
Merci. Merci.
Bravo.
Merci mille fois.
C'est chez Plon, hein.
C'est logique.
C'est un bosseur.
Nous en parlions, autant les écouter, ces chansons.
Et sous le corsage blanc, là où battait son cœur, le soleil gentiment faisait comme une fleur.
Comme un petit coquelicot.
Comme un petit coquelicot, mon âme. Comme un petit coquelicot.
Alors, tout à l'heure...
Vous avez l'air tout triste à l'écouter.
Nostalgique. Je reste sous l'ambiance de cette chanson.
Très belle chanson.
C'est une très belle chanson, mais pas gaie du tout, ça c'est certain. Bon.
Non, alors, mais pourtant vous dites que ça correspond à une période de liberté, de cette après-guerre où on redécouvre la vie.
Ah oui, bien, parce qu'on est libre de chanter ce que l'on veut. Donc, donc c'est ça qui est important. Moi, ce qui était extraordinaire, c'était... Les caves de Saint-Germain-des-Prés, les fameuses caves de Saint-Germain-des-Prés, se sont créées quasiment tout de suite après la libération de Paris. Comme Paris est libéré, je rappelle, fin août de 1944, et que la guerre se termine en août de l'année d'après.
Bon. Ouais.
Donc, pour nous, on était libérés, c'était fini. C'était pas vrai du tout, parce que le rationnement a continué jusqu'en 49. On n'a pas mangé immédiatement. Moi, ma première tablette de chocolat, j'ai dû la manger en 48. Et ça fait bizarre, mais c'est comme ça. Bon. Donc, c'était quand même la joie d'être libre. On était plus vieux que notre âge, parce que la guerre, j'avais 10 ans au début de la guerre, 15 à la fin, et ça nous avait un petit peu mûri, tout ça, vous voyez ce que je veux dire. Donc, on était très vite dans les caves de Saint-Germain. Moi, j'étais au Tabou, qui était bon là où il y avait Boris. Bon, très bien. C'était magnifique. Et j'ai assisté à la création Boris Vian.
Oui, parce que DJ Boris, c'était autre chose. Ça dépend de la génération.
Chacun sa référence.
Boris Dio.
Mais et là, j'ai assisté à la création du déserteur, qui pour l'époque, ça a été un choc, parce que oser chanter ça.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps.
Mais alors justement, celle-là, vous la chantez avec une espèce de légèreté alors qu'elle est d'une gravité profonde.
Oui.
Mais vous la chantez de manière beaucoup plus
Parce que l'air est léger, hein. L'air qui est dessus, il est très léger, hein, bon. Et c'est, moi je trouve
c'était l'ironie de Boris Vian.
Oui, bien sûr que c'est l'ironie de Boris Vian. Et puis je trouve que, justement, quand on veut dire quelque chose d'extrêmement extrêmement important, si on le dit d'une manière totalement dramatique, on est moins écouté que si on le dit d'une manière fantaisiste.
J'entends. Ouais.
Hein, parce que notre esprit, il est comme ça, comme dans notre beau pays. Hein.
Quelle est la chanson, la première, qui vous a donné envie de faire cet album? L'idée est venue comment? Vous avez dit, je vais enregistrer un album des chansons de cette période-là, et vous avez fait votre sélection des meilleures chansons, ou est-ce qu'il y en a une, et vous avez dit, tiens, il y aurait peut-être quelque chose à faire après?
Alors, écoutez, la chanson qui, au
départ... Je vous demande la vérité, Pierre Belmont.
Oui, la chanson...
Non, je vous demande la vérité.
Oui. Bien, alors je vous dis... c'est les enfants qui s'aiment.
Les
enfants qui s'aiment s'embrassent debout contre les portes de la nuit. Et les passants qui passent.
Jacques Prévert et Vladimir Cosma.
Voilà. Et les portes de la nuit, donc un film énorme, bon, qui a été un bide total. C'est très curieux. Il est sorti juste après la guerre, puisqu'il a été tourné à la fin de la guerre. Et il est sorti après la libération. Bon. Et moi, j'ai adoré ce film. C'était un film très sombre, très noir, c'est certain. Bon. Mais c'était un magnifique film et il n'a pas fait de succès du tout. Il a fallu attendre des reprises plus tard pour qu'enfin les gens découvrent ce film dans toute son ampleur. Mais c'était... Et il y avait cette fameuse chanson, bien sûr, dedans. Voilà. Ça m'avait énormément frappé parce que ça correspondait justement à tout ce bouleversement quand enfin on pouvait dire ce qu'on pensait, ce qu'on voulait, etc. C'était important.
Alors, on l'a rappelé tout à l'heure, il y a l'almanach, les histoires extraordinaires que vous signez chez Gunt. Il y a Ma vie au fil des jours, vos mémoires mémoire publié chez Flammarion. Si on vous attend quelque part, c'est sur les histoires extraordinaires, sur l'almanach, sur un roman, sur votre bio, moins sur la musique.
Oui, c'est vrai.
C'est aussi un pied de nez que vous avez envie de faire, c'est-à-dire d'aller là où on vous attend pas, ce que vous avez aussi souvent fait dans votre carrière professionnelle.
Oui, oui, bien sûr. Bah, c'est ce que j'ai eu envie de faire. Oui, bien sûr. J'ai eu envie d'aller toucher la chansonnette, quoi, parce que.
Enfin, vous l'avez déjà fait, ça.
Oui. Enfin, j'avais fait un premier disque.
On commence par l'admirer. On voudrait lui ressembler. Et le premier mot qu'on dit, et le premier pas qu'on fait, on le dit comme il le dit. On le fait comme il le fait.
Là, on est plus dans le slam.
C'est
le
père. Exactement, c'est le père, oui. Oui. Et là, vous racontez une histoire en musique. Oui. Daniel Morin a raison. Pour une fois, je tiens à souligner ce moment.
C'est rare.
Merci, Daniel.
C'est rare. Hein,
oui, vous chantonnez sur le refrain, mais vous parlez sur la chanson.
Je parle, oui, voilà. Le reste du temps, je parle.
Alors que là, sur votre album, vous chantez.
Ah oui. Ah oui, je chantais vraiment, là. Là, je suis chanteur. Là, j'étais conteur dans la où vous venez de passer.
Et alors, pourquoi vous ne l'avez pas fait plus tôt? Puisque vous avez ce plaisir de chanter.
Je ne sais absolument pas. J'avais plein de complexes, certainement, et je n'ai pas osé.
Vous manquez de maturité un peu? C'est ça, vous manquez de maturité
oui,
pour vous engager.
Oui, parce que j'ai été mature, en fait, vers 65 ans.
Mmh. Ah oui.
Donc, il n'y a pas tellement longtemps.
Pierre, vous chantiez depuis longtemps.
Vous avez 20 ans aujourd'hui.
Vous chantiez depuis longtemps, Pierre? À la maison, par exemple?
Oui, oui, toujours. Chez moi, oui, bien sûr, tout à fait. Pour moi, oui, tout à fait.
Avec ce rêve inavoué de...
Voilà. Alors, je suis un chanteur très bizarre parce que je n'ai aucune mémoire des paroles.
Ah.
Alors, je commence...
Ah bah déjà là vous avez oublié.
Oui, non mais je voulais commencer par des paroles, déjà je les ai oubliées, c'est tragique. Bon.
Pourtant,
Monsieur
vous avez
le Président,
incroyable.
Je vous écris cette lettre, tari et la taralalère.
Mais comme les trois carnets, comme tout le monde, mais tout le monde est comme ça.
Oui je sais bien, alors, et donc je n'osais pas, je suis nul dans ce truc-là, bon. Voilà, et puis un jour, on m'a dit, mais si, tu as une voix qui passe, bon, essaye,
surtout,
essaye, fais-le, sérieusement.
Votre voix est une marque, elle est reconnaissable, c'est une empreinte, que vous chantiez ou que vous parliez, c'est du belle main, et ça, c'est une force, ça.
Oui, bien sûr.
Ça,
oui,
c'est
oui.
Une force, c'est
enfin, c'est
indéniable.
Sans volonté, de le faire, hein. C'est naturel, je dirais.
Oui, mais je ne connais personne qui, lorsqu'il parle, on se dit, tiens, il a une voix à la Bellemare. Il y a beaucoup de personnes qui sont peut-être imitables ou reconnaissables dans le timbre des autres.
Mais
alors vous, c'est vraiment une empreinte indélébile. Oui. Et puis peut-être parce qu'on a grandi avec vous, peut-être parce que aussi vous faites partie de ces voix cultes à la radio, à la télévision, qui sont, voilà, avec lesquelles on est... imprégné. Non, mais je vous dis avec beaucoup d'affection, Pierre, vous me regardez comme si j'étais un débile.
Non, c'est pas ça.
C'est pas le premier, Nagui, c'est pas le dernier. Hein.
J'allais vous dire merci, mon petit enfant, de me dire
non,
tout ça.
D'accord. Non,
c'est ça. Ça aussi, il l'a entendu, Nagui, petit.
Et juste.
Les jésuites.
Leïla.
Et une question, Pierre. 11 titres sur cet album. J'imagine que les standards qui vous ont bercé, il doit y en avoir beaucoup.
Oui.
Comment vous avez procédé pour trier et réduire cet album à 11 chansons?
D'abord, j'ai pas eu le sentiment de réduction parce que j'espère que c'est les 11 premières. Non, vous voyez, on démarre toujours comme ça. Je sais pas, c'est l'instinct. J'ai été à l'instinct parmi mes goûts, voilà, et j'ai mélangé un peu des choses un peu légères, des choses très sérieuses, bon, des choses qui m'avaient beaucoup touché à l'époque, puis voilà.
S'il fallait en ajouter une 12e, on prendrait quoi comme titre? Standard.
Alors, il y avait 12 chansons, en fait. Il y avait 12 chansons, on en retirait une parce qu'elle n'est pas Elle n'était pas dans la même époque.
Ah.
Et bien entendu, je l'ai oublié, c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à
Tata yo-yo.
Oui, c'est... voilà. Tata yo-yo. Non, c'était une chanson...
Merci Albert.
C'est une charmante, adorable chanson d'un monsieur qui...
Une chanson douce que vous chantez votre maman.
Non, c'est un monsieur qui s'était retiré dans le Midi et qui a la surprise générale un jour, s'est suicidé.
Nino Ferrer.
Voilà.
Mirza.
Et c'est une des plus belles chansons de Nino.
Le Sud,
voilà. Ah, oui. Et donc j'ai voulu la chanter. Et puis on a trouvé que par rapport, puisque vous connaissez toutes les autres, on a trouvé que le Sud s'était un peu décalé par rapport aux autres.
Ah oui.
Voilà.
Et donc, elle aurait été hors contexte, ça, c'est faut reconnaître.
Voilà, tout à fait. Et moi, je m'en suis pas vraiment rendu compte quand j'ai interprété ça. Voilà.
Le prochain album.
Ah peut-être, oui, pourquoi pas.
Mes chansons du Sud. Vos oreilles ont sifflé, Leïla, quand on vous annonçait l'arrivée dans cette bande originale de Pierre Bellemare.
Oui, et immédiatement, Pierre, je pense à un jeu que vous avez animé, dans lequel vous avez reçu un jeune homme qui n'est pas aujourd'hui inconnu des Français de la classe politique. Écoutez bien, d'autant que le jeune homme en question est bien timide et peu loquace.
Bonsoir, c'est dans le magnifique manège du centre hippique du Bois de Boulogne que nous nous retrouvons ce soir. À côté de moi, un nouveau candidat, Monsieur Laurent Fabius, qui sera dans quelques instants interrogé en littérature et qui a choisi, vous vous en doutez, le jumping comme épreuve sportive. Monsieur Laurent Fabius, quel est votre âge, s'il vous plaît ?
J'ai 23 ans.
Vous avez 23 ans, vous êtes parisien, je crois.
Oui.
Et pour autant, actuellement, vous faites votre service militaire, mais pas du tout dans l'armée de terre, un marine. Où êtes-vous
stationné ? À Toulon.
À Toulon. Et je crois que vous avez d'ailleurs eu, en 69, une année un petit peu chargée. Vous avez passé un certain nombre de concours, d'examens.
Exact.
Dites-nous ça un petit peu.
J'ai passé au mois de juin l'examen de l'Institut d'études politiques, au mois de juillet une agrégation de lettres, et au mois de septembre l'École nationale d'administration.
Et vous avez été reçu à tout cela?
Oui, j'ai eu cette chance.
Sans Léna Lagrègue, j'ai eu cette chance.
Ouais,
ouais. Nous sommes en avril 70 face au jeune Laurent Fabius, que vous impressionnez beaucoup, j'ai l'impression, en tout cas sur la vidéo. Il ne lève pas beaucoup les yeux. Vous avez été amené à rencontrer comme ça pas mal de monde lors des Jeux. Y a-t-il d'autres personnalités?
Des personnalités aussi fortes que Laurent Fabius, il y en a peut-être une ou deux encore, mais c'était pas quand même l'habitude de cette émission. Hein.
Il n'était rien à l'époque, il était juste un jeune homme.
Oui, mais il fallait être intelligent pour être dans la tête des gens.
Vous aviez par exemple, il y a une question qu'on pose à Laurent Fabius, on lui demande les poètes du XIIe siècle français. Et je dis, bon, que ça. Alors c'est rien que des types, vous savez, c'est Albert Lecomte, des noms totalement inconnus. Personne en France ne connaît ces poètes qui sont de bons poètes et de grands poètes, mais c'est peu connu en France. Il répondait à ça, je crois qu'il en a cité 6 sur 8, enfin bon, boum, comme ça. Aujourd'hui, je vais dans une mission de jeu, je pose la même question, un silence total.
Bah évidemment.
Vous aviez face à vous un agrégatif de lettres, donc c'est pas non plus une question de mécanique que vous lui
posez.
En écoutant l'extrait, j'ai grandi aussi avec la tête et les jambes, mais je me souvenais pas que le candidat faisait à la fois les épreuves physiques et les épreuves
intellectuelles. C'est la deuxième version.
Ah d'accord, parce que...
Voilà, Avant, il y avait cavalier seul.
Avant, il y avait deux candidats.
Et la tête et les jambes.
Voilà, c'est voilà. Ça, d'accord.
Là, c'est cavalier
et ensuite,
seul.
On a appelé ça cavalier seul parce que c'était le monsieur qui répondait aux questions et qui accumulait les faux, s'il en avait, bien sûr. Et donc, ça diminuait son temps, etc. Voilà. À la fin.
C'est génial. Ça, c'est une création de Jacques-Antoine ou la
bien
vôtre?
Bien sûr. Jacques-Antoine et Pierre Bellemare, voilà. C'est vraiment une création commune.
Vous parlez de la troisième personne.
Très bien. Il faut bien se détacher de soi-même. Si vous voulez.
Il était sympa, Pierre Bellemare.
Oh, pas tellement.
Si. Très sympa, Pierre Bellemare.
Et on poursuit. Quand je pense à vous, Pierre, je pense à une femme, une artiste au grand cœur.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon.
James.
Oui, sous le ciel de Paris, Lynn Renaud.
Chanson reprise par Pierre Bellemare aussi.
Pierre dans l'album.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson.
Alors, il faut dire une chose d'abord, c'est que Lynn, qui heureusement est toujours de ce monde d'ailleurs, Lynn, on a grosso modo commencé à peu près ensemble, voilà. Pas du tout dans le même domaine, mais ensemble. Et alors, ce qui est amusant quand même, c'est que je travaillais, moi, dans un bureau, on avait un petit bureau avec Jacques-Antoine, dans une maison de disques qui a disparu depuis, qui s'appelait les Disques Pacifiques, qui était située au boulevard Haussmann, et qui avons-nous vu un jour apparaître dans cette maison de disques Lynn Renaud et son mari, bien entendu.
Loulou Gasté.
Loulou qui était déjà là. Bon. Et voilà, et on a fait connaissance tout de suite. C'était une fille extrêmement sympathique. Et voilà, alors on se connaît depuis très très longtemps.
Et
voilà.
En 85, elle est venue vous voir parce qu'elle avait observé ce qu'avait fait Liz Taylor aux États-Unis en faveur de la lutte contre le sida. Et elle voulait créer en France un mouvement similaire.
Tout à fait.
Et vous lui avez donné un coup de main.
Ah oui, bien sûr, bien sûr.
Qu'est-ce que vous avez fait?
Eh bien, si vous voulez, on a fait une émission spéciale.
Au nom de l'amour sur France 3.
Voilà, tout à fait. Et ça, c'était plus compliqué que de faire à la radio parce que ça enclenche des quantités de choses. Et ça a été une réussite puisqu'on a vraiment bien créé cette œuvre et surtout on a obtenu des sous parce que ce qui était essentiel à l'époque, il y avait beaucoup de problèmes financiers dans cette affaire parce que c'était une maladie honteuse.
Mais vous avez faut bien
se rendre compte de ça. Vous avez collecté 10 millions de francs.
Mais surtout, vous êtes à la naissance du SIDAction, en fait.
Oui, Céline qui a l'idée qui vient me voir. Voilà. Et on le lance à l'antenne ensemble. Voilà.
Et vous avez collecté quand même 10 millions de francs.
Oui, bien sûr.
Ce qui n'était pas une petite somme à l'époque, ce qui lui a permis, en effet, de lancer cette activité. Caritative.
Merci Leïla. Notre invité est Pierre Belmar, Balade au fil du temps, son nouvel album. On va en réentendre des extraits, mais d'abord voici l'humeur de Guillermo Quiz.
Bonjour les amis. Voilà, sans vouloir plomber une ambiance déjà inexistante, reconnaissons
quel chien galère.
Tout de même aux atrocités d'Alep, du Yémen, du Congo et plus généralement à la violence, à l'injustice sociale et aux catastrophes climatiques, le mérite de nous poser cette question. Le dieu actuel doit-il être reconduit dans ses fonctions? Le dieu actuel, absolument. Ah, oui. Une question qu'ils sont nombreux à se poser dans ma tête quand je mange des nuggets de drogue dure. Et croyez-moi, on est en décembre, c'est la saison. Mais question qui ne manque pas de la légitimité des braves dans ces périodes d'horreur généralisées où prédomine cette espèce d'affreux sentiment d'impuissance, pour paraphraser la vie sexuelle de Nagui. Alors, fondamentalement, d'un point de vue purement personnel, je ne crois pas en Dieu. Je dois le dire, si Dieu existait, Penelope Cruz serait sur mes genoux dans 3, 2, 1. Voilà. C'est quand même pas si compliqué que ça à démontrer. Hein. Parfois, les gens font un foin pour tout et n'importe quoi, quand même. Bon, désolé pour nos auditeurs qui pensaient rejoindre le Tout-Puissant dans les prochains mois. Ce sera un grand vide, tout froid, à la place. Et ouais, l'au-delà, c'est pas le paradis, c'est le programme d'Emmanuel Macron. C'est comme ça. N'empêche, voilà, vous imaginez les réactions dans le monde entier si le mystère de l'existence de Dieu était élucidé par un Belge. Mais genre, ça devrait être entendu pour Dieu. Bah ouais, apparemment, c'est un Belge qui a découvert le truc. Ah, c'est moche, quoi. Et donc, quoi, Dieu, ça casse pas trop patin à un canard, finalement. Bah si, ça va, quoi. Apparemment, il a des pouvoirs et tout, mais moins que ce qu'on croyait, quoi. Enfin, genre, il connaît 11 langues et il arrive à faire le moonwalk vers l'avant, mais pas plus, quoi. Je crois que tout le monde serait déçu que ce soit un vieux bruxellois tout pourri qui perce enfin l'énigme des énigmes, quoi. Après, je dis ça, je dis rien. Moi, j'avais parié PSG-Barça en 8e finale de la Ligue des Champions.
Ah, t'avais parié ça?
Eh ouais, donc chacun tire les conclusions qu'il tire. Voilà, voilà. Non, évidemment, l'humilité me fait dire.
Tu es Dieu, tu veux dire?
Non, ce que je veux dire, c'est que mes prédictions sont pas toujours. Voilà. Tirez-en les conclusions que vous voulez. Ce que je veux dire, l'humilité me fait dire, évidemment, que sur les enjeux théologiques majeurs comme l'existence de Dieu ou la puberté tardive chez les enfants de cœur, il n'est pas inenvisageable que je me trompe. Va savoir, évidemment, il y a des milliards de croyants. Vraisemblablement, ils ont peut-être raison, ce qui nous ramène à notre question initiale. Après 4 milliards 500 millions d'années passées sans interruption à la tête de cette planète, peut-on encore considérer le dieu actuel comme le candidat du changement et de la modernité? Ouais, les nuggets étaient costauds, les gueuleurs, ils s'est pas foutu de ma gueule. Enfin voilà. Parce que bon, on a fait chier François Hollande sur son bilan, mais franchement, c'est un massage à finition manuelle à côté des crasses que le dieu actuel a sur la conscience, comme le disait récemment Wikipédia. J'espère qu'il a une bonne excuse. Alors, bon, j'ai bien compris que dans la métaphysique traditionnelle, on n'était pas tout de suite sur une dynamique d'alternance démocratique, mais pourquoi ne pas imaginer un jour la mise en place d'une espèce de grande primaire de l'au-delà, où toutes les divinités défendraient leur chance dans un débat contradictoire présenté par feu Jean-Pierre Elkabbach, paix à son âme, d'ailleurs, t'aurais le dieu sortant qui serait attaqué de toutes parts pour la guerre, la faim, la colonisation, le terrorisme, et qui, comme dans tout bon débat du genre, se défendrait en appelant à ne pas tomber dans la caricature, parce que ce n'est pas ça que les gens veulent entendre. Ce qu'ils veulent, ce sont des actes, et pas de la politique politicienne, évidemment. Il serait obligé de défendre les réussites de son mandat, hein, la photosynthèse, la roue, la pénicilline, Internet, Lila Kaleur-Boudadi. Ah, une réussite. Avec ses concurrents qui lui font « Oui, d'accord, mais bon, Daniel Morin, comment pouvez-vous regarder les humains dans les yeux et leur dire que ça n'arrivera plus ?» Comment ne pas vous considérer comme le candidat du système? Et là, sur Daniel Morin, le dieu sortant minimiserait, parlerait d'épiphénomène, de ratage en marge, qui ne serait pas représentatif du travail de toute une administration, ne tombe pas dans la démagogie, qui ferait le lit du populisme athée. Moi, je trouverais ça vraiment juste une primaire des dieux, parce que là, je crois qu'on est vraiment mûrs pour le changement. Enfin voilà, je vois que ça vous intéresse pas plus que ça, mes questionnements sur Nuggets. Je retourne percer le mystère de la vie dans mon coin. Allez, bonne émission, les amis.
Bravo.
Bravo. Bravo.
la bande originale.
Oh, c'est une très bonne idée à exploiter. En tout cas. Très très bonne idée.
Primaire de l'au-delà.
C'était Woody Allen qui avait dit si Dieu existe. Ouais. J'espère qu'il y a une bonne excuse.
Ça s'est attribué à Woody Allen, mais c'est pas sûr sûr à 100%.
Ah ok.
Absolument.
Apparemment, ce serait Baudouin, le roi des Belges. Qui l'aurait dit. Ouais.
Ils sont partout. Dans quelques instants, nous allons parler évidemment télévision avec Pierre Belmar et notre invité Patrick Mahé, parce qu'on ne peut pas vous accueillir à un micro sans évoquer ce que vous avez vu naître et ce qui a grandi grâce à vous, à vos idées et ce que vous avez incarné. Mais d'abord, quelques dates comme ça, mises en musique cette fois-ci, dans votre carrière, en 1952 par exemple.
Le ciel est bleu sur les vacances. Le soleil blanchit l'oreiller.
Voilà les paroles.
J'aurais pu la chanter.
Mais il faut dire, à son enfance. Bye bye.
André Clavaux, bye bye. Vous avez fait une émission de variété avec André Clavaux ?
Oui, André Clavaux. C'était, on avait voulu refaire Bing Crosby. Là, Bing Crosby, chanteur de charme. Et il y avait un rigolo pendant ce temps-là en face. Et le chanteur était André Clavaux. Parce que André a été, parce que peu de gens savent, un grand animateur de radio. Notamment sur une radio...
Radio Luxembourg.
Voilà, sur Radio Luxembourg.
L'ancêtre
animait l'après-midi.
D'accord. Comment, est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez décidé de partir dans le domaine de l'insolite et du crime ? Est-ce que c'est dans ces années 52 avec Jacques-Antoine ?
Il était recherché par la police ?
Oui.
Je ne sais pas pourquoi, justement.
J'ai pas été recherché par la police, mais j'ai été recherché par la milice, qui était moins gaie parce que c'était pendant la guerre. Donc,
en 52, vous avez, d'accord, mais en 52, vous avez l'idée de faire des émissions.
Oui, bien sûr. Non, mais j'avais vécu aussi ça.
Si ah oui, d'accord. Oui. D'accord.
Donc, dénoncé, bien entendu, comme résistant. Alors, on ne disait pas résistant, les pangolais étaient terroristes. Bon. Et j'étais un terroriste. On m'avait vu sur le toit de ma maison, tout ça, je ne pas des trucs, bon.
Et, à cause de vos cheveux, on vous a repéré.
Peut-être. Ah non, justement, j'avais une touffe énorme à l'époque. Je me suis plaquer les cheveux. Alors, comment dit-on quand on se... Quand
on les gomine. On les plaque à l'arrière.
À la Tino Rossi.
C'est
vous mimez un truc.
Vous animez un jeu, là, ou vous trouvez plus le mot?
Non. Qu'est-ce qu'on...
Loin du front, c'est-à-dire...
Chauve.
Non, j'ai pas... Loin du front, c'est zone libre.
Non.
Loin du front, bah si.
Loin du front, c'était le planqué, c'était la coiffure au planqué.
Loin du front.
Le coiffeur de l'op.
J'étais pas loin avec Zone Libre. Zone Libre, j'y étais aussi. Mais bon. Donc, revenons à l'idée. S'il vous plaît,
j'adore cette digression.
À l'idée de faire des émissions sur les insolites et sur les affaires criminelles.
Oui.
Pourquoi raconter des horreurs ?
D'abord parce que c'est un goût.
D'accord. Vous aimez les horreurs ?
Non, j'aime pas les horreurs, mais j'aime bien les raconter. C'est pas pareil.
Parce que ça fait
j'ai pas l'amour pour ce que je raconte. Je trouve ça horrible, même ce que je raconte.
Mais Nagui, c'est pareil. Hein.
Mais je me mets dans la peau du personnage, si vous voulez. Bon. Et c'est assez amusant de faire justement ce que personne n'ose faire.
Parce qu'on attire l'attention quand on dit, et à ce moment-là, la porte s'ouvrit et on sait pas ce qu'il y avait derrière.
La porte s'ouvrit, c'est un peu. Il y a longtemps que c'était fait, ça. C'est mieux pour que vous preniez un autre procédé. Parce que
la bobinette Chéra.
Mais vous avez été imité.
Non, mais il marche dans la rue et tombe de 15 mètres. Parce qu'en effet, un trou béant s'ouvre sous lui. Bon, ça, c'est, oui, ça. Là, déjà, on se dit, oh, merde.
Ça fait rire aussi.
Ouais, ça fait rigoler, quoi. C'est amusant, c'est... Enfin, il y a des tas de moyens. Bon. Et donc, on a tout simplement voulu raconter des histoires qui allaient, immobiliser les gens devant leur poste, bon, parce qu'elles étaient très saisissantes. Et surtout, on a fait une chose qui était extrêmement différente par rapport à ce qu'on faisait à l'époque. À l'époque, la radio, on faisait ce qu'on appelle de la mise en onde. Comme il y a la mise en scène au théâtre, il y a la mise en onde à la radio. En quoi consistait la mise en onde? Ça consistait à faire accompagner le texte de chant, par exemple.
Ou de bruitage.
De musique, bon, etc. Il y avait beaucoup de choses autour du texte. Et Jacques, qui a été un des créateurs les plus importants de son époque, a dit « Pierre, tu racontes ça sans rien. Et tu marques des temps, par contre. » Il entra dans la pièce. Deux hommes étaient là.
Ça marche.
J'ai déjà peur.
Ça fonctionne.
J'ai déjà peur.
Bon, ouais.
Déjà au naturel, Pierre Bellemare me fait un peu peur. Quand il raconte comme
quand
ça,
je veux dire que... Non, mais c'était vraiment... Il faut dire que Jacques avait vraiment de ta bonne idée, parce que c'était révolutionnaire complètement. Il est dans un silence total, sans musique, sans rien. Et ce type qui, tout seul, chante.
Alors ça, c'est... Je raconte. Pierre Bellemare, ça, c'est pour la forme. Pour le fond, à quel point tout était vrai, à quel point vous n'en rajoutiez pas dans le mystère et dans l'extraordinaire.
Vous me demandez un secret de famille, là.
Non. Ça y est, j'ai la réponse.
Non.
Bah, si.
Non, mais c'est bien sûr.
Il y a quelques coups de couteau en plus.
Oui, bien sûr, il y avait une tendance à augmenter un peu l'horreur de nos histoires. Je ne vais pas nier ça.
Votre côté sadique.
Mais.
À cause de vous.
Mon côté sadique, non, mais qu'est-ce que tu racontes, celui-là?
Venant de lui, c'est un compliment.
Non, mais ça s'appelle valoriser le produit, tout
oui, simplement. Oui, oui, d'accord.
Est-ce que vous vous rendez compte du nombre de personnes dont je fait partie, qui...
ont eu des problèmes gastriques.
Non. Non, ont eu des problèmes de retard au boulot ou au bahut.
Oui, puisque c'était 13h30, 14h.
Exactement. Et moi, donc... les cours commençaient à 14h, ouais. Et je voulais écouter la fin. Alors, heureusement qu'il y avait des pubs sur Europe à ce moment-là, mais jusqu'à la fin, j'écoutais, après je cavalais, j'arrivais toujours en retard, ouais. Et quand j'ai dit 3-4 fois, non mais j'écoutais Bellemare, ça marchait plus, quoi. À la fin, je me faisais engavander.
Vous êtes responsable de l'échec de beaucoup de scolarités.
Ouais, c'est à cause de vous que je fais de la radio.
Bravo, monsieur Bellemare.
Ah, oui.
En 1987, vous écoutiez Jacques Brel avec ce titre indémodable.
Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps.
Alors évidemment, c'est pas une chanson de 1987, mais c'est celle que vous écoutiez en 87. Quand vous entendez cette musique, vous revoyez quelles images, vous voyez vivre dans quelle ville ou dans quelle région, dans quelle...
Ne me quitte pas, c'est une chanson qui a été relativement assez mal vue à l'époque. Parce que c'est une chanson où vraiment le chanteur... On sent bien qu'il n'a pas écrit cette chanson comme ça pour le plaisir et qu'il y avait quelque chose qui s'est passé dans sa vie quand même pour qu'il écrive cette chanson. Bon. Et donc, c'est tellement un aveu de d'adoration pour une personne qui n'a plus aucune chance de voir.
Jacques Brel disait que c'était la lâcheté masculine.
La lâcheté, oui, bien sûr, d'accord, chanson, oui, ouais. Bien sûr, bien sûr. En fait, vous connaissez quand même pour qui a été faite cette chanson.
Ouais, Suzanne Gabriello.
Ouais, Suzanne voilà, Gabriello.
Sur Suzanne.
Et on sait même qui était l'amant de Suzanne Gabriello parce qu'elle avait l'homme qui.
Et Suzanne était une présentatrice à l'époque. Il y avait des présentateurs
musicaux.
Je
finirai plus tard. Je sais pas.
Il y avait des présentateurs.
Non, parce qu'il nous l'a dit dans cette émission. Celui qui était l'amant de Suzanne Gabriello et qui a fait que Jacques Brel a écrit "Ne me quitte pas". Je sais pas si vous le savez. C'est Guy Bedos.
C'est
Guy Bedos. Non, mais il nous l'a avoué dans la bande originale.
On mais quand était... est-ce qu'on a eu Jacques Brel ici?
Non, c'était Guy Bedos qui nous l'a dit.
Ah, parce que j'allais dire, j'étais malade ou j'ai un truc.
Et il a dit qu'il n'était pas fier, évidemment, non, d'avoir été l'amant et d'avoir brisé un couple, mais que ça avait donné cette sublime chanson.
Oui, bien sûr, oui.
Et il touche des droits d'auteur dessus. Il se régale.
Non, mais je ne me permettrai pas de le dire si lui ne l'avait pas raconté.
Non, mais je m'en doute. Non, mais je vous connais. Je sais bien que vous n'avez pas révélé des secrets qui sont personnels ou qui sont de vos amis, ce n'est pas votre genre.
Exactement, merci de le rappeler. Je peux être un salaud avec des gens que je n'aime pas.
Et donc vous allez raconter une histoire, Pierre, sur cette chanson.
C'est vrai.
Oui, non, mais j'allais comme elle est connue, je ne vais pas la raconter à nouveau. Donc, c'est parce que c'est assez étonnant, si vous voulez, quand on voit cette chanson, qu'on voit la puissance de ce que dégage Jacques Brel pendant cette chanson. Il se trouve, et je ne vais pas en dire davantage, mais enfin, je connaissais aussi Suzanne Gabriello, bon...
On est un peu
pas son
parce que vous aussi non.
Non non mais on était
Pierre
mais
pas
justement
vous.
Non mais non justement pas ah du bon. Tout pas du tout du tout du tout du tout non mais c'est vrai que
et rendez-moi ces photos
mais non parce qu'on est un peu surpris quoi c'est pas si vous voyez ce que je veux dire c'est pas Viviane Romance, vous voyez, c'est pas un personnage comme ça qui a un soleil dans qui rentre sur scène.
Vous voulez dire c'était pas un canon de la beauté.
Voilà, non ben je voulais pas le dire mais enfin bon c'est vrai.
Non mais on a compris.
C'est vrai. Mais par contre certainement.
Mais elle rendait des hommes fous.
Mais alors elle rendait des hommes fous parce que certainement on avait d'autres qualités.
Et pourquoi Pierre Bellemare vous
êtes ignoble. J'adore. Je vois où vous voulez en venir.
Il reste une grosse repasseuse.
Ça suffit.
Non, non, arrêtez d'être ignoble comme ça.
Grosse repasseuse.
Et pourquoi, Pierre, vous parlez de lâcheté masculine? Pourquoi vous parlez de lâcheté? À l'époque, on considérait ça comme de la lâcheté masculine qu'un homme livre comme ça son cœur, son désarroi.
C'est Jacques Brel qui
est dit.
C'est pas Pierre Bellemare qui dit ça.
Pourquoi c'est la lâcheté? Je comprends pas bien.
Demande à Jacques Brel, écoute, je sais pas.
Parce que c'est un homme qui supplie une femme.
Mais dans quoi c'est de la lâcheté que de dire qu'on est dépendant?
Mais heureusement, et je le constate grâce à vous, nous avons beaucoup changé dans ce domaine. Ouais. Mais à l'époque où Brel dit ça,
c'est une lopette.
C'était considéré comme ça.
Oh là là.
Vous voyez, le type qui n'est pas le mâle puissant
qui n'est pas
sur la dame, ouais, ce que ça. Je veux dire, c'est un lâche. Oui, voilà.
Alors,
on a beaucoup changé quand même, heureusement.
Fait, ouais. Si nous avons évoqué cette année 87 où vous écoutiez Jacques Brel, 87, c'est l'année où vous rapportez aux États-Unis le télé-shopping, qui est l'une des nombreuses idées.
Le prompteur et le télé-shopping, deux
voilà,
choses.
Voilà, prompteur et télé-shopping. Alors justement, c'était
le prompteur. Hein.
Ouais, ça a été le premier à porter le prompteur. Ouais. Je ne sais pas si vous avez fait du bien à la télévision en ramenant le prompteur.
Ah bah si, quand même.
Parce que certains.
Ça dépend de ce que tu fais à la télévision, mais quand tu as du texte un petit peu lourd.
Ce que j'allais dire, pour le journal et les journalistes, j'entends, et c'est très utile, pour malheureusement beaucoup d'émissions après de variété ou d'interviews,
Il y avait un prompteur dedans.
Ils sont lobotomisés maintenant, ils sont collés au prompteur à tel point où.
Toi, tu ne l'utilises pas?
Jamais.
Jamais.
Jamais de prompteur, jamais d'oreillette. Mais si tu te retrouves avec des animateurs qui ne vivent qu'avec des prompteurs et des oreillettes, si l'un des deux est en panne,
ils sont perdus.
Ah, mais ils sont sur pause. Il ne se passe plus rien. C'est assez surprenant.
C'est vrai.
Je voulais savoir de tout ce que vous avez fait à la télévision, avant d'en parler avec Patrick Mahé, quelle est votre fierté? Est-ce que c'est justement d'avoir importé le prompteur et le télé-shopping? Est-ce que c'est d'avoir créé des émissions de radio, de télé? S'il y avait une création, les caméras cachées, je ne sais pas.
Je veux dire que j'ai fait beaucoup de choses.
Bah oui.
Mais. J'ai aimé, à un moment donné, faire une émission quotidienne où je me suis révélé comme un conteur possible, et alors que je ne m'en rendais pas compte du tout, je le dis tout de suite, et que le succès est venu petit à petit. C'est certainement ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir passionné des Français pendant 14 ans sur les antennes d'Europe 1, en leur racontant tous les jours une histoire qui, je le rappelle, faisait quand même 26 minutes.
Ouais, mais qui était passionnant.
Après, quand j'ai enchaîné sur une autre chaîne, on m'a dit, du coup, des 13 minutes, oui. Maintenant, je fais sur France Bleu Périgord, qui est ma radio, puisque je suis en Dordogne, je raconte tous les jours une histoire, et maintenant, elle est de 7 minutes. Vous avez vu, c'est toujours la moitié de précédemment, voilà. Alors, bientôt, je raconterai l'histoire en 3 minutes et demie, puis en 1 minute.
En 3 minutes, ça s'appelle une chanson, une histoire de 3 minutes.
Mais vous voulez pas retourner sur Europe? Apparemment, ils embauchent là.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, vous avez pas mal à votre Europe 1.
Ben, c'est non, parce que le remplaçant de Bellemare en ce moment, c'est Monsieur Ondelat, et que Monsieur Ondelat est un très bon homme de radio et de télévision d'ailleurs. Bon, et je trouve pas mal ce qu'il fait le matin.
Il a longtemps officié à France Inter.
Vous n'aimez pas l'émission de Ondelat le matin?
Joker. Patrick Mahé, merci de venir à ce micro, Patrick. Vous avez été longtemps le.
Et cette chanson, Le Bonheur et Léo, ça vous est venu?
Le Bonheur.
Il est où?
Il y a H. Patrick Mahé. Ah,
heureusement que tu es là, Leïla. Heureusement.
Vous avez été patron de Télé 7 jours pendant combien d'années, d'ailleurs, Patrick?
Parce que, pendant 10 ans.
Pendant 10 ans, patron Télé 7 jours. Vous publiez les archives de la télé avec votre ancien organe de presse, donc Télé 7 jours, de 5 colonnes à l'une à The Voice. Autrement dit, tout ce que l'on peut imaginer à la télé dans tous les domaines. D'ailleurs, c'est classé plutôt par domaine. Vous avez fait ce choix en y rajoutant une iconographie absolument incroyable et j'allais dire des pop-up. Je sais pas comment appeler ça, mais quand il y a des cartes postales,
reproduction collector.
C'est ça. C'est ça, pour en faire un objet.
Par exemple, cet agenda de un agenda d'une année avec des Miss France transformé un petit peu en pin-up, comme dans les années 50-60 en Amérique.
Comment résumer la manière dont la télévision a évolué? Est-ce que la télévision était faite dans un premier temps pour le direct, pour rendre compte de ce qui se passe en termes d'événements, ou voire créer elle-même ces événements, et c'est devenu de plus en plus quelque chose peut-être de formaté, de yophilisé et de mécanisé?
Disons qu'au début, évidemment, comme tout était, il n'y avait rien. Donc comme il n'y avait rien, tout était à créer. Et évidemment, tout était possible dans tous les domaines. Mais au départ, la télévision, c'est d'abord une affaire de journalistes. Ce sont d'abord des journalistes. Le pionnier d'entre eux, d'ailleurs, le pionnier, c'est Pierre Sabag. En fait, c'est Pierre Sabag, le premier qui va créer en 1949.
C'est 5 colonnes à la une.
Non, ça c'est plus tard, ça, c'est Pierre Desgros. Pierre Desgros, 5 colonnes à la une, Pierre Desgros.
D'accord. Et alors, Sabag,
Pierre Sabag, lui, il crée le premier journal télévisé. Mais à l'époque, il faut savoir qu'il y a les branchés, comme on dirait plus ou moins de nos jours, il n'était que 3700. Il y avait 3700 postes de télévision en France, en 1949, quand Sabac crée Journal Télévisé. D'ailleurs, il a failli ne pas le créer parce qu'il avait survolé une compétition d'aéronefs sur Paris, et son propre ballon dirigeable a pris feu et s'est écrasé au sol 3 jours avant le premier JT de 1949.
Eh ben dis donc.
Voilà.
Il ne peut plus rien t'arriver après, hein, si tu t'envies à ça.
ça calme. Donc pour vous, le pionnier de la télévision, d'abord Sabag, ensuite
Sabag, des gros bien sûr, parce que c'est 5 colonnes à la une. 5 colonnes à la une, c'est l'émission, alors elle, pionnière de l'information, avec les grands reportages. Je me souviens, quand j'étais gamin, il y avait la guerre d'Algérie, donc c'était terrible la guerre d'Algérie. La première fois qu'on a vu un reportage avec des appelés, c'était dans 5 colonnes à la une, c'était le sergent Robert, donc l'équipe de télé avait suivi un bidasse.
Quand vous parlez des pionniers de la télévision, ce sont toujours des journalistes.
Au départ, ce sont vraiment des journalistes. Bon, il faut arriver un petit peu plus tard pour que l'animation prenne aussi sa place. Mais elle prend sa place à travers le théâtre. Au théâtre ce soir, là, c'est très important. Ce sont des grands messes au but de Chaumont.
Dont le 50e anniversaire sera fêté sur TF1 en janvier.
Ben, c'est quand même la moindre des choses. Hein. Je me souviens que Chancel m'avait dit qu'il avait visité, Jacques Chancel avait visité les studios du but de Chaumont. Il s'est passé tellement de choses. Les rois maudits, tout ce qu'on voudra, les cathares de Stelio Lorenzi et tout ça. Il est arrivé un jour pour faire un reportage au but de Chaumont, il y a quelques années, et c'était devenu une grande surface. Un prix unique, comme dirait Alain Juppé. Enfin bref, une grande surface, il était complètement sidéré de voir cet ancien temple où on avait tellement tourné de chefs-d'œuvre, en fait. Jean Pia, les rois maudits, etc. C'était devenu Monoprix, en gros.
Du vandalisme, presque. Ouais.
Vous dites les journalistes au début pour la création, ensuite le spectacle. D'ailleurs, Pierre Belmar, est-ce que vous considérez comme journaliste, comme conteur, comme animateur, comme producteur, si vous deviez définir votre métier?
Je suis un producteur de télévision qui anime ses émissions.
Bon, ok, d'accord. Je vais pas être désagréable maintenant. Oui. Vous prenez mal.
Producteur et animateur. Ah, non,
j'entends. Pardon.
Producteur et animateur.
Je suis producteur et animateur, oui. Voilà. Moi, dans le début de la télévision, j'arrive, moi, avec, en fait, la vraie première émission de jeu. Si vous voulez. Bon, voilà. Le jeu très important, Télématch. C'est quelque chose qui va, en effet, rassembler énormément de monde. Alors, vous avez raison, il y a très peu de postes, mais il ne faut pas oublier que devant chaque poste, il y a à peu près 20 personnes.
Voilà, c'est ça. Parce qu'on regarde, mais c'est vrai, il a raison, Pierre. On regarde la télévision en famille.
Voilà.
Et avec les voisins. C'est quelque chose d'extrêmement social. Parce que déjà,
la télé était un objet rare. Donc, comme tout le monde ne l'a pas, dès qu'il y avait une télé, ça attirait du monde.
C'était un meuble énorme, en fait. Il prenait toute la place du salon chez les gens. Et puis, le dimanche soir, quand il y avait, par exemple, le film du dimanche soir, le sacro-saint film du dimanche soir, les voisins venaient et c'était l'opération sandwich devant la télé.
Alors, la télé a évolué. Je ne sais pas si ça a été forcément une évolution, mais en tout cas, elle a grandi. Est-ce qu'elle a bien grandi ou mal grandi? Vous ne la jugez pas, d'ailleurs. Vous essayez d'être exhaustif dans les différents domaines. Vous ne la jugez pas. Mais quand même, est-ce qu'il y a moins ou plus de liberté? Est-ce qu'il y a moins ou plus d'intelligence à la télé aujourd'hui?
Une telle variété dans les programmes d'aujourd'hui qu'on ne peut pas dire qu'il y a moins d'intelligence. Elle est dispersée. Elle est dispersée. Mais la liberté et la liberté de ton, elle a toujours existé. De mémoire, je dirais que quand, par exemple, les Shadok, qui étaient comptés par... qui pompaient sans arrêt, comptés par Claude Pieplu, étaient à la télévision...
Et Kijibus.
Ça faisait scandale, quelque part, chez la bien-pensance, comme on dirait aujourd'hui.
Parce que c'était absurde, parce que c'était de l'humour...
Voilà, c'était un humour qui est... Non,
politique.
Qui véhiculait des messages. C'est pas n'importe quoi.
Il y a
quand même eu une censure très très présente sur les émissions d'humour. La boîte à sel, par exemple, qui est une émission d'humour, a été censurée par le ministre de l'Information, qui était le bras, direct du pouvoir. L'émission de Jean-Yann et de Jacques Martin... qui a été censuré pour une raison. Ils avaient comparé la bataille de Waterloo à une course de côte cycliste. Et il y a des sénateurs bonapartistes qui ont exigé que l'émission soit supprimée. au troisième numéro, ça a été supprimé. Il donc, raison, faut pas idéaliser le passé en disant qu'il n'y avait pas de liberté dans certains domaines. Mais la censure était présente.
À côté de ça, il y a eu des émissions. Alors, plus
mais enfin, on a vu des proches quand même.
Plus tard, voilà.
Ça dépend des époques et des années. En fait. Ça dépend des époques.
Ou Polak dans les années 80.
C'est beaucoup plus tard. Mais dans les années 60-70, la censure est très très présente.
Il faut se souvenir qu'en 68, par exemple, c'est toute l'ORTF qui, en fait, autour de la maison de la radio,
il y a un ministre de l'information.
Manifeste. Même les reporters.
J'ai vu ça de l'intérieur. J'ai vu ça de l'intérieur. Je suis, dans cette révolte et dans cette grève qui atteint évidemment la totalité de la radio et de la télévision.
En 68.
Oui, ça c'est extraordinaire parce que finalement, qu'est-ce qui part en premier, ce qui n'était jamais arrivé. Ça, c'est quand même une chose qui est amusante à citer. Il n'y avait pas de syndicat de producteurs à la télévision. Il y avait des syndicats de techniciens, des syndicats de réalisateurs, mais il n'y avait pas de syndicat de producteurs, puisque le principe du producteur, c'est d'être indépendant, de produire ses émissions avec ses moyens, etc. Donc, il n'y avait pas de syndicat. C'était pas un truc qu'on pouvait syndiquer. Bien. Or, arrivent les événements de 68, c'est-à-dire les événements qui se passent dans la rue, j'entends, bon, et s'il y avait l'émission d'information dont on a cité tout à l'heure sur la première chaîne, sur une autre chaîne, il y avait la concurrence qui était une émission qui était menée par d'autres journalistes. Et on a... le déclenchement, c'est ça. Hein, et on a censuré cette autre émission. Et à ce moment-là, les producteurs de cette émission sont venus...
Ils ont créé le mouvement, ils ont créé l'élan.
Voilà, ils sont venus près de cinq colonnes, voilà. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Et Lazareff, le premier, c'est le meneur, le vrai meneur, c'est Lazareff.
Qui, à l'époque, était le patron de François Soir.
Oui, il faut s'en souvenir. Dit, on se met en grève. Non, mais c'est extraordinaire, on se met
François
en grève.
François qui tirait 1 million d'exemplaires par jour.
Oui, oui. Alors...
Par jour,
oui. Je suis scié, moi.
Oui, alors attendez, c'est Lazareff qui dit, on se met en grève, et on lui dit, oui, mais les producteurs n'ont pas de syndicat. Et on va se réunir quelque part. Bon, mais alors, où?
Et au bistrot.
Alors, où pensez-vous qu'on s'est réunis pour la première réunion du syndicat des producteurs?
Au bistrot.
Pas du tout. On s'est réunis dans un salon de l'hôtel Georges
V. Oh non, mais c'est d'un chic.
Mais bravo, hein, on mène la lutte d'un côté et de l'autre.
Enfin, bref, c'est quand même là qu'on a décidé, dans ce salon d'hôtel Georges V, de se mettre en grève. Et là, alors, on bouleverse les habitudes. C'était toujours les réalisateurs, les techniciens qui se mettaient en grève. Et brusquement, c'était les producteurs. Ça changeait tout.
Puisque et vous les animateurs, puisque, et les journalistes.
Oui, bien sûr.
Puisque vous avez travaillé, je vais essayer de poser ma dernière question, puisque vous avez travaillé avec les 7 jours et que le chiffre 7 est un chiffre magique, n'est-ce pas, puisque les jours de la semaine, en l'occurrence, s'il y a 7 moments clés de la télé à retenir.
Alors, pour les téléspectateurs, dans la mémoire collective, je dirais que le couronnement de la reine Elisabeth a été un événement incroyable. En 1953.
Ah oui, énorme.
Alors là, les gens, il n'y avait pas de télévision pratiquement, les gens donc étaient dans la rue, étaient en grappe devant des vitrines et regardaient sans avoir de son. Une émission qui a duré quand même, qui durait toute la journée en fin de compte.
Hein, parce mais un choc en Angleterre aussi.
Okay. Alors ça fait un. Il y a quand même la Lune.
Bien sûr, la Lune, alors en 69, évidemment. C'est d'ailleurs là que les acheteurs de postes de télévision se déploient.
Eh oui, il fallait le voir.
Massivement. C'est en 69, ils vont passer la nuit blanche à guetter l'alunissage.
Il y a du foot aussi.
Troisième pas compte de ce que vous disiez. Vous dites des choses insensées. Hein.
Sur
pas sur la télévision. La Lune en 69, ça m'a...
Très bien.
Non, la Pierre Bellemare, là. Les cinq dernières minutes du commissaire Bourret.
Moi, j'adore.
Ça, c'est beau.
Eh bien, c'est un signe de vitalité.
Et de souplesse. Hein.
De grande souplesse.
Alors ça, c'est le troisième, donc.
Le foot, évidemment. Une émission de variété incroyable, je ne sais plus laquelle, comment elle s'appelait, de Sébastien.
Le Grand Bluff.
Voilà, le Grand Bluff, qui a réuni un jour 15 millions de téléspectateurs.
Salut.
Autant que pour un match de foot en finale de l'Euro.
17 millions et demi,
vous voyez, bon.
Avec quand même une chose tout à fait exceptionnelle, un monsieur qui ne se rend pas compte, qui parle justement à cet excellent animateur et qui dévoile totalement sa vie sexuelle. C'était quand même assez curieux, ça. Je ne sais pas si vous en souvenez.
Non, pas du tout. Non.
Ah, si, si.
Si, il y a eu ça. D'accord.
Oui.
Le football, évidemment, 98, la Coupe du Monde.
La Coupe du Monde, c'est là d'ailleurs que Thierry Roland reprend à l'antenne en direct une phrase qu'avait déjà prononcée Roger Coudert lors d'un match de rugby du tournoi des 5 nations.
Je peux mourir
après ça, on peut mourir. Ouais. Coudert l'avait dit, je ne sais plus en quelle année, Roger Coudert, allez les petits, très connu, Roger Coudert, un des manifestants de mai 68 qui avait été écarté.
Qu'il a payé très cher. Qu'il a payé très très cher. Il a été quasiment interdit pendant des années à la télévision.
Et alors après, il était à la radio, Coudert, et il commentait les matchs, qu'il n'avait pas d'image évidemment, il disait, et alors à gauche de mon transistor, les bleus. À droite du transistor, les blancs de l'équipe d'Angleterre.
Formidable.
C'était fabuleux.
Formidable. Et puis, vous dites, après l'information, c'est-à-dire les Twin Towers, quand on a vu les images de ces tours, évidemment, on a tous été choqués.
Il faut dire que c'était une telle sidération universelle, d'ailleurs, que c'est même pas un moment fort de la télévision. C'est un moment tragique de l'histoire du monde.
Aux éditions du Chêne, ce très bel ouvrage, bonne idée de cadeau si vous cherchez, si vous avez un passionné de télé quelque part dans la famille, il sera forcément ravi d'avoir cet ouvrage. Patrick Mahé avec la préface de votre cher Antoine Decaune, Albert. Les archives de la télé de 5 colonnes à l'une à The Voice. Vous voulez rajouter quelque chose ?
Un dernier mot, Pierre Belmar a fait la couverture de Télé 60, l'ancêtre de Télé 7 jours, cigarette au bec à l'époque.
Oui, bien sûr.
C'est une honte.
On donnait
quand un candidat était un peu en difficulté, on disait bon, on fait une pause, une cigarette, et je lui offrais celle, j'en fais fumer une. Et
À l'antenne,
nous tous les deux, on fumait. Voilà. C'est 5 minutes à fumer, à dire des choses comme ça, puis repartir.
Quelle belle époque.
Il faut, il faut se rendre compte que la télé d'aujourd'hui doit beaucoup à des pionniers comme Pierre Belmar. Il faut rendre hommage à ses grands noms et ses créateurs.
Oui.
Une fois de plus, le génie de votre raisonnement vient frapper à la porte de mon admiration.
Bien.
Bon, pas aujourd'hui.
Ah merde.
Visiblement, vous avez utilisé la sonnette. Mais peu importe. Non, il ne faut pas rendre hommage aux pionniers de la télévision. La seule chose qu'ils méritent, c'est...
La quoi ?
La seule chose qu'ils méritent, c'est la peine de mort.
Carrément.
Si on a eu fait entrer l'accusé avec l'autre psychopathe qu'on a mentionné tout à l'heure, on l'a, c'est à cause de qui ? De Pierre Belmar. Si on a des greluches de téléachat qui tortillent du croupion en essayant de nous vendre un aspirateur qui fait aussi la vaisselle, qui va chercher les gosses à l'école et qui s'occupe manuellement du mari les soirs de migraine, c'est la faute à qui ? À Pierre Belmar. Pire ! Si on a Taratata, c'est à cause de qui ? Guy Lux. Oui, l'autre monsieur Guy, à cause de qui un jour un migrant égyptien sordide s'est senti pousser des ailes en nous infligeant des chanteurs qui allègrement massacrent la chanson française. J'ai raison ou pas, Jean-Philippe Manœuvre ?
Mais yes, putain, yes ! Le tort qu'il a fait à la chanson française, ce Guy Lux, c'est pas possible. Et encore lui, il était sympa, il s'y connaissait en musique, pas comme l'autre escroc d'Alexandre.
Ah, voilà, bien vu, vous voyez, monsieur Guy, je n'invente rien, des spécialistes partagent mon point de vue. Les pionniers eux-mêmes, s'ils voyaient ce qu'on a fait de leur découverte et de leur savoir-faire, croyez-moi, ils feraient profil bas. Il y en a même qui changeraient de nom, de pays, de visage. Nommé 3. Comme quoi, malgré tout leur respect et l'admiration que j'ai pour monsieur Belmar, force est de constater qu'aujourd'hui, une fois encore, monsieur Guy, vous avez dit
n'importe quoi.
Merci Daniel Morin avec vous. France Inter, Midi, voici M, le bal de Bamako, là tout de suite avec Oxmo Puccino.
Bal de Bamako, bal de Bamako, bal de Bamako, j'étais dans la...
Comme un vertige sur la ville, moi, l'ami bout blanc, imbécile, dans un boubou pas très agile, plutôt fragile. J'ai comme les doigts dans la prise, te voir danser m'électrise, peut-être même que ça m'érotise, que j'idéalise. Malice au Mali des merveilles, le Mali Dieu crée la flamme. Le Mali danse dans mon âme. On y soit qui Mali pense, qu'importe la couleur de ta peau. Béni soit qui au Mali danse, au son des balles de Bamako.
bateau, c'est moi le capitaine. Tu danses pas, sois le croque-mitaine. La voix arrive par la droite, il reste une chance et sois pas maladroite. Fais le décalement, ouais carrément, vire-le, qu'on le fasse légalement. Si tu penses, c'est que c'est possible. Aujourd'hui c'est dimanche, demain aussi. Respire sans morosité, douce ou cassini, porosité. Si quelqu'un appelle, dis-lui qu'on se tire un bal réel. Ton bassin fait l'hélicoptère.
Oh, ni soit qui mal y pense, qu'importe la couleur de ta peau. Béni soit qui au mal y danse, au son des balles de Bamako.
C'était M avec Oxmo Puccino qui se baladait du côté de Bamako. Notre invité Pierre Bellemare jusqu'à midi et demi. C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kazour-Boudadi, Pierre Montré, Daniel Morin, et notre invité, monsieur Pierre Bellemare. Pierre Bellemare qui nous fait rêver avec ces années que l'on
nous passionne.
Que l'on n'a pas vécu, que l'on n'a pas connu, mais on redécouvre une forme de légèreté.
Dis-moi, bonne grand-mère, quand tu étais enfant, aimais-tu te distraire? Lisais-tu des romans? As-tu connu la haine? As-tu connu l'amour? Avec ses joies, ses peines, te faisait-on la cour? Et sous le corsage blanc, là où battait son cœur, le soleil gentiment faisait comme une fleur. Comme un petit coquelicot, mon âme, comme un petit coquelicot.
Oh, des fois ils s'en canaillent un peu hein, aussi.
Un petit jet d'eau, station de métro, entouré de bistrots, pigalle. Grand magasin, atelier de rapin, restaurant pour Rubin, pigalle.
Ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des chansons comme Le Déserteur, comme Pigalle ou Coquelicot qui ont traversé aussi les générations. C'est-à-dire qu'il y a une génération qui redécouvre ces chansons et qui se disent pas « ouais, c'est truc ringard pour mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-mère et autres », mais ça parle.
Bah oui, parce qu'ils redécouvrent des chansons qui vraiment ont été écrites pour vraiment quelque chose, c'est ce que je veux dire. Lorsque on fait sur Le Déserteur, par exemple, on fait une chanson entière, c'est certain que j'ai assisté encore une fois à la première, c'est-à-dire au Tabou, puisque c'est là que ça s'est passé. Bon, c'est vrai qu'on est resté sur le derrière, parce qu'on se disait qu'il ose chanter quelque chose, il va être foutu en prison demain matin, parce que c'est vrai que c'est ce qui est risqué, il n'y avait pas de problème. Et ça a été extraordinaire, finalement, que cette chanson, malgré qu'elle soit interdite partout, mais a réussi lentement à passer.
Elle a été interdite jusqu'à la guerre d'Algérie, fin de la guerre d'Algérie.
Tout à fait. C'est extraordinaire. C'est une chanson qui a eu une puissance énorme. Énorme.
Parmi les auteurs, d'ailleurs, vous, de votre point de vue d'interprète, les mots glissent mieux, sont plus agréables quand c'est du Prévert, quand c'est du Vian. À quel moment vous sentez le plus à l'aise, le plus en phase, en tout cas, avec quel auteur?
Ben j'aime bien Boris Vian, en effet, j'aime beaucoup Prévert, bien entendu. J'ai beaucoup chanté aussi une chanson de Prévert.
Vous les avez rencontrés tous?
Alors, je connaissais Boris Vian, oui, ça je l'ai connu au Tabou, j'étais très jeune, il n'avait certainement aucun souvenir de moi. Prévert, je l'ai vu, mais je n'ai pas vraiment rencontré. Vous savez, dans notre métier solitaire, où il fallait à l'époque tout faire, puisque on nous donnait un studio, c'est vrai, on y pouvait rester 3 jours, c'est exact, mais il fallait vraiment tout faire, hein, bon, et y compris le décor, bon, c'était quand même quelque chose, hein, ça occupait, hein. En fait, je faisais à un moment donné que de la télévision, mais la radio, elle, on la faisait en direct, c'était de l'improvisation, c'était des jeux très simples, ou des émissions faciles à animer, bon. Donc, la radio, en quelque sorte, nous reposait tout en travaillant bien et en gagnant notre vie. Car on ne gagne notre vie que là. Hein, c'était la radio
en fait,
qui nous faisait vivre.
Le point commun de tout ce que vous avez fait, que ce soit les jeux que vous avez créés, animés, produits, que ce soit les histoires que vous racontiez ou les chansons que vous chantez, c'est justement que ça raconte quelque chose. Il y a toujours un début, un milieu,
oui,
une
fin.
Oui, c'est
vrai, tout à fait.
Il faut qu'il y ait une structure.
C'est vrai. J'aime bien, c'est vrai. Il faut que ça raconte une histoire, c'est vrai.
Et les jeux racontent des histoires.
Parfois. C'est une histoire, c'est l'histoire. Le héros de l'histoire est le candidat, forcément. Hein.
Jacques-Antoine, un jour, m'a dit, parce que c'est un bonhomme absolument incroyable.
Enfin, l'un des plus grands hommes de radio et de télévision qu'on ait connu.
Jacques-Antoine, un jour, m'a dit, le héros d'un jeu, c'est le perdant. Il me dit, c'est lui qui va faire le piment, qui va faire le sel, c'est un perdant. Ce qui est déjà une manière de voir les choses assez surprenante. Dire, bon, c'est celui, on va rire, on va s'étonner, on va s'identifier, on va se comparer. Le champion, on va l'admirer, évidemment, il sera toujours extraordinaire, l'homme qui sait tout. Mais on sera toujours plus proche du perdant.
Oui, c'est vrai, humainement c'est exact, totalement, oui.
Bref, et vous avez encore des envies, des idées de jeux, de mécaniques, vous avez...
Oui.
Proposer des choses?
Oui. Bah, c'est-à-dire qu'on a fait un jeu pendant plusieurs années sur Europe 1, qui a très bien marché, qui a été une grosse réussite. Et ce jeu, on devrait le reprendre à la télévision parce qu'il est plus audiovisuel que simplement audio.
C'était quel jeu?
Eh bien, c'était un jeu. C'était un jeu d'Europe 1. Je ne dirai pas plus parce que je ne veux pas griller mon jeu.
Mais pourquoi? Mais il est à vous. Qu'est-ce que vous risquez?
Oui, non, mais on ne sait jamais.
Carrément. Ben, je ne sais pas, moi je suis à la place de Pierre Belmar, j'ai Nagui en face de moi, je ne dis rien. Je ne dis rien du tout.
Donc, vous savez pourquoi je ne vous le dis pas?
Parce que c'est dans les tuyaux, c'est ça, vous allez le faire?
Non, pas du tout. Ah pas bon du tout. C'est qu'en ce moment, je vous rappelle que je suis dans ma 88e année.
Et
le seul problème physique que j'ai, et qui est quand même important, c'est que je perds la mémoire. Et pour l'instant, je suis incapable de...
Oui, mais vous vous souvenez que vous perdez la mémoire.
C'est ça,
énorme.
C'est ça, tellement mignon. Pierre Belmar est notre invité. Moins mignon maintenant, voici Daniel Morum. Ouais,
Nom de Dieu, je n'en pouvais plus d'attendre. Ouais. Demain, c'est l'élection de Miss France. Pour moi, c'est le meilleur moment de l'année. Ça, bien sûr, le salon de l'agriculture. J'adore l'élection de Miss France.
Oh, mais quelle honte!
Canin.
Quelle honte! Quelle honte!
Qu'est-ce qui vous arrive, Père Albert?
Non, mais ça va pas de dire des conneries pareilles.
Mais quelles conneries?
Eh bien, comparer le concours des Miss à un concours canin.
Bah quoi?
Mais les concours de beauté, c'est une belle tradition. Une tradition de pur esthétisme qui, comme dirait Nangui, fait du bien dans ce monde tourmenté où la laideur de l'obscurantisme est omniprésente.
Ah, oh, c'est beau, il parle bien, Nangui. mais vous connaissez quoi, mon père, au concours Miss France?
Ah, au concours de Miss France? Rien du tout. Non, mon Dieu, quelle horreur. Toutes ces femelles qui défilent en moitié nues, exhibant leur forme molle et tentatrice devant un parterre d'hommes, la langue sortie et le futal en éruption, ça me dégoûte.
Oui, ben alors?
Eh bien, je parle du concours que moi j'organisais.
Quel concours?
Celui de Mystère Séminariste.
Oh non!
Organisé avec mon ami, Monseigneur Di Falco, tous les 2 ans, dans les sous-sols du Vatican.
C'est quoi ce truc?
C'est un événement colossal. Des séminaristes, colossal.
Colossal, ça
c'est
veut dire gros,
problème
très,
avec
très
les
gros,
accents ouais. circonflexes.
Mais allez-y, mettez-en tant que
des
vous
voulez. Des séminaristes qui viennent du monde entier pour décrocher le titre.
Non mais vous faisiez quoi, vous?
Je m'occupais des candidats, de leur accueil et de leur bien-être.
Ah ben, racontez-nous ça.
Eh bien, alors la dernière fois, c'était l'an dernier,
oui.
Un casting exceptionnel.
Est-ce qu'on voit tout de suite qui a le potentiel ou pas pour gagner le concours?
Ah non, normalement, on voit ça immédiatement. Dès leur arrivée, il y en a eu 2 qui, pour moi, sortaient du lot. Piotr, un séminariste mongol, petit mais très très bien fait.
Ah oui ?
Oh oui ! Une gueule de brute sur un corps de bulldog. D'ailleurs, il avait très peu d'éducation, il se comportait comme un chien. La première fois que je l'ai caressé, il m'a mordu, le petit salaud. Quand il était menaçant avec les autres candidats, j'étais obligé de lui jeter des croquettes pour l'éloigner. Son seul problème, c'était l'odeur. Il sentait fort le bougre, mais fort surtout après la pluie. On aurait dit un maroilles oublié sur un radiateur. Quand je lui ai donné son premier bain, l'eau était verte. Dans ses cheveux, j'ai trouvé un vieux clou rouillé et un écureuil mort.
Bah, dites donc. Et au niveau du concours, il a donné quoi, Pierre ?
Une catastrophe, j'en chiale encore. Il a même pas terminé la compétition. Pendant le défilé en string, il a eu froid, il a pissé contre la jambe de Di Falco.
Wow.
Je te le fais pas dire. Pendant le speak de présentation du candidat argentin, il lui a grimpé dessus par derrière. On est obligé de lui jeter un seau d'eau froide pour qu'il s'arrête. Ah, je m'étais bien gouré sur son potentiel.
Oui, mais qui a gagné ?
Ah, j'en ai encore des frissons. C'est Gustavo, un séminariste italien au corps de rêve et dont la peau était d'une douceur, mais d'une douceur.
À ce point-là ?
Et même plus. Pour te dire, quand je lui donnais son bain, je le frottais avec un gant en soie pour préserver son épiderme. Eh bien, même le gant avait l'air de prendre du plaisir.
Il était doué pour défiler ?
Oh, mais tu as pas idée, un vrai top modèle de backroom. Il avait une façon de balancer ses hanches et de bomber le torse. C'était enivrant. Quand il est arrivé sur scène pour le défilé en string, trois cardinaux se sont évanouis de bonheur.
Et s'exprimait bien, ce Gustavo ?
À la perfection. Une diction parfaite, avec un sens du suspense inné. Le tout saupoudré d'un son aussi délicieux qu'italien. Quand sa voix, dans sa voix, il y avait le talent de Pierre Belmar, avec l'accent de Rocco Siffredi.
Ah oui, gros niveau.
Oui, gros. Très gros. Je me souviens un soir où Amam...
Non, on n'a pas le temps pour ça, on n'a plus le temps. En tout cas, merci pour votre témoignage.
Merci.
Bon, bah, vous avez compris, les concours de beauté, ça permet de mettre en lumière des gens formidables. C'est beaucoup plus qu'un concours canin, en fait, même en même temps, voilà, en pleine crise de grippe aviaire. C'est vraiment judicieux de maintenir une compétition rassemblant en public autant de pintades et de bécasses. On peut se poser la question. Merci à tous.
Merci,
bon week-end.
Merci, sur
France Inter. Le brouillon de culture pour Pierre Belmar, notre invité, signé Leïla Cadeau-Baudet.
Pierre Belmar, je vous sors de la promo un petit bol d'air, c'est notre brouillon de culture, histoire d'apprendre à mieux vous connaître, et on commence par un son pour vous, Pierre.
Allô, Guy, je vous demande infiniment pardon, Guy.
Oui,
je n'y vois plus rien, je n'ai rien à l'œil, mais l'on m'a cassé mes lunettes. Par conséquent, nous allons voir comment nous allons faire le tir à la corde. Malheureusement, sans lunettes, je ne peux rien faire, on va essayer d'y parer. Par conséquent, nous allons improviser, mais malheureusement, je n'ai plus tout à fait... tous mes moyens.
C'est Léon Zitrone, dans un moment resté culte d'Interville. Hein, c'est l'attaque à Léon Zitrone. Vous parliez de lui dans une interview parue en 2011 et vous expliquiez qu'en fait, Léon Zitrone était un homme un peu étrange qui n'avait pas de lien particulier avec le public, qu'il détestait même.
Ouais, c'est vrai en plus.
Ouais. C'est vrai, c'était pas quelqu'un. C'était pas
mais comment vous ça se manifestait ? Il n'était pas dans l'envie de rencontrer les gens, parce qu'il était très populaire.
Bien sûr qu'il était très populaire, mais on a fait des choses avec lui. On a fait par exemple une caméra invisible où c'était un monsieur donc qui était il parlait très bien russe, je vous le rappelle.
Oui.
Donc il parlait russe. Oui. C'est un touriste, il était perdu dans Montmartre et il demandait sa route, il demandait le Sacré-Cœur. Enfin bref, bon. Et les gens voyaient Zitrone. Alors donc évidemment ils avaient envie de lui dire. Ils disaient mais famille en France. Alors c'était du petit. Excusez-moi, on disait ça comme ça.
Non.
Je vais le dire, je vais oser le dire. Oui. Du petit nègre. Bon. Et c'était extraordinaire. Et Zitrone prenait une joie à faire ça parce que. En même temps, il ne faisait que parler de lui sans arrêt, bien entendu, puisqu'on le comparait à Zitrone. Bon, c'était irrésistible. Et là, dans ces cas-là, il était mais merveilleux. Il n'y avait aucun problème. C'était un animateur formidable. Bon, mais il fallait toujours respecter surtout le personnage. Voilà, il était très très sensible à ça.
À propos de respect, vous l'avez dit vous-même. Je vais oser le dire. C'est vrai que la phrase du petit nègre, c'est plus une phrase que l'on peut dire aujourd'hui en 2016.
C'est fini.
C'est fini. Mais Zitrone pour.
Mais il n'y en a pas de remplaçant. Vous avez un remplaçant?
Une phrase remplaçante? Ah bah oui.
Il parle mal.
Un baragouin.
Charabia. Ouais, simplement dans une langue mal assurée. Enfin, il y a plein de façons de dire.
Non, mais je crois qu'on dit un petit roumain maintenant.
L'église au milieu du village.
Zitrone avait eu cette phrase formidable un jour. Il arrivait en retard à la radio. Je crois qu'il travaillait à RTL. Il arrive en taxi. Il met du temps à régler le taxi. Donc derrière, évidemment, quelqu'un klaxonne en disant hey, dépêche-toi, hey, vas-y, bouge. Et Zitrone sort et regarde le monsieur qui klaxonne en lui disant c'est pas la peine non plus d'ameuter, taisez-vous. Et le gars dit ouais, ça va, Zitrone, je t'ai reconnu, tu me saoules, je sais pas trop quoi. Et Zitrone lui dit, vous m'avez reconnu, mais je vous raye de la liste de mes téléspectateurs.
Génial.
Zitrone, c'était comme ça.
Le mec avait su rester simple, quoi. C'est ça. J'en connais d'autres qui pourraient la dire, enfin je ne vais pas les citer, il y en a autour de la table, donc non, Guillermo, rassure-toi. Okay.
On poursuit avec un autre son pour vous, Pierre.
Yo, ici c'est Bouba Musette. Alors poto, fais gaffe au coup de tête, hein. Wesh bolosse, tu fais tiep avec ta barbichette, ça me rappelle Suzette, tu sais ma vieille biquette. Tu veux wesh les lascars en faisant le daron dans ton quieta? Mets-moi dans le Périgord sur la tête de ma ref, je suis la hardcore. T'avais encore des chaussures à scratch, moi je me tapais déjà des biatchs.
C'est vous dans un clash avec La Fouine dans l'émission de Cyril Hanouna sur Europe 1 où vous étiez chroniqueur.
Oui, tout à fait.
Qu'est-ce qu'ils vous feraient pas faire? Ils sont complètement dingues.
Ben non, c'était amusant, là, parce que c'est brusquement, c'est quelque chose que je suis censé ne pas savoir faire.
Bah oui.
Donc, évidemment, ça m'a amusé de tenter de le faire. Ouais. Bon. Et ça a marché. Il se trouve que ça a marché parce que.
Mais vous êtes comédien,
c'était
en fait.
Il y avait une langue bizarre que l'on parlait.
Vous êtes comédien.
Oui, bien sûr.
Vous êtes surtout resté très comédien. Vous êtes resté curieux, surtout.
Si on aurait dû monter des pièces avec les animateurs de télé, je sais pas ce que ça aurait donné.
Mais ça existe.
Oui, ouais, de temps en temps, la deux monte ça, en effet. Et il y en a eu une récemment.
Absolument,
oui,
tout à fait.
Et qu'est-ce que vous pensez du phénomène Hanouna? Parce qu'il occupe une place certaine en télévision, il est de plus en plus attaqué par des téléspectateurs, et pas que, sur ses dérives, sur ses pratiques au sein de l'émission, sur les propos qu'il tient ou fait tenir à ses chroniqueurs, des propos considérés souvent comme racistes, comme homophobes, comme dégradants. Qu'est-ce que vous, qui connaissez tellement bien l'histoire de la télé, qui l'avez vu grandir, ça représente quoi pour vous le phénomène Hanouna?
Le phénomène Hanouna, il commence sur RTL d'abord, hein, avec
Jean-Pierre Foucault.
Mes petits camarades Jean-Pierre Foucault. Après ça, il quitte RTL et il arrive sur Europe 1. Bon, et là, je vais faire la matinée avec lui. Bon, la matinée, ça marche d'une manière extraordinaire et Hanouna est tout à fait fait pour ça. Et comme il démarre, si vous voulez, il n'a pas encore l'assurance qu'il va prendre après. Et donc, il ne va pas se permettre des improvisations très bizarres. Il est vraiment dans son rôle d'animateur. Il essaye d'être drôle quand il peut être drôle, la question n'est pas là. Mais c'est bien cadré. Ça ne dérive pas, si vous voulez. Donc, pendant un an, on fait une bonne émission. Et puis, pour des raisons qu'on connaît tous, mais à un moment donné, donc... Monsieur Ruquier, qui travaille à ce moment-là sur Europe 1, va quitter Europe 1 pour aller prendre les grosses têtes, il avait raison, sur RTL, et il va cumuler à la fois l'écoute Ruquier et l'écoute Bouvard, ce qui est quand même assez remarquable.
C'est un très joli coup.
Et donc, évidemment, on met en face, là, l'erreur totale, on veut absolument mettre... Et on met Hanouna. Mm-hmm. Et Hanouna se dit, il faut que j'en fasse un maximum, parce que vraiment, pour battre Ruquier, c'est pas ça. Et donc, on lui met une mission, en fait, quasiment impossible, mais la dérive commence. La dérive qui n'est pas son fait, qui est du fait qu'on lui impose, qu'il admet, il l'accepte, la question n'est pas là. Mais il se lance dans une aventure qui est, en fait, au-dessus des forces de la plupart des animateurs qui existent, voilà. Parce que c'est difficile.
Donc vous expliquez ces dérives, mais touche pas à mon poste. Il est plutôt leader en télévision sur le créneau qu'il occupe. Il n'est pas nécessairement obligé de se livrer. Si vous expliquez ces dérives par la concurrence et l'envie de faire de l'audience, là en télévision, c'est pas forcément ça. Vous avez travaillé avec lui. Est-ce que vous avez vu là-dedans une forme d'inquiétude sur, je sais pas, le minimum d'intelligence qu'on peut atteindre en télévision?
Écoutez, j'ai participé il y a pas longtemps, puisque j'ai été son invité. Je sais pas si c'est passé à l'antenne.
La semaine dernière, oui.
J'ai été son invité. Bon, c'est comme d'habitude. Si vous voulez, j'ai été parmi les premiers à participer à son émission au début, donc. Et c'est toujours pareil. Bon, en effet, on atteint très rapidement la folie furieuse. Ouais. Je suis bien d'accord. Mais il est rentré dans ce système, bon. Et quand vous êtes dans ce système, vous pensez que le système fait, est quand même responsable, en partie, de votre réussite. Vous voyez ce que je veux dire ? Il sait bien que, avant lui, il n'y avait pas de type comme ça sur cette chaîne de télévision, qu'il a créé un style, mais malheureusement, comme il faut l'alimenter, qui n'est pas si facile à alimenter que ça, on va vers les outrances, voilà.
Il faut juste préciser une chose, Cyril Hanouna, on aime ou on n'aime pas, mais il est tout sauf raciste, tout sauf homophobe, tout sauf intolérant. C'est juste la petite parenthèse que je voulais faire.
Juste de dire que les propos qui sont véhiculés à travers la télévision peuvent être insultants pour une certaine partie de la population.
C'est le risque de la vanne. Il y a des vannes qui passent, des vannes qui passent pas.
Mais il y a une limite entre la vanne et l'atteinte, je pense, à certaines populations. Je finis par un petit cadeau pour vous, Pierre Belmars.
Et ceci dit, les gens sont pas obligés de regarder.
Non, mais voilà, bing.
Non, c'est pas une question que les gens sont pas obligés de regarder, c'est qu'à un moment,
c'était quoi le cadeau ?
Il y a une jeunesse qui regarde et qui va ensuite véhiculer ces propos-là et en faire des propos habituels. Et après, on va pas se plaindre qu'en 2017, on va avoir une élection présidentielle très très sympathique, vous allez voir. Georges Brassens, c'est mon cadeau pour vous dans la collection bouquins Robert Laffont. Où vous pourrez retrouver l'intégrale de ses chansons, les paroles ainsi que les musiques, avec même une méthode pour arriver à reproduire à la guitare avec toutes les tablatures le rythme de Georges Brassens. C'est vraiment l'intégrale de toutes ses chansons, et comme disait Maxime Le Forestier, c'est un véritable vaccin contre la connerie, et je crois qu'on en a plutôt besoin une fois qu'on a parlé de Cyril Hanouna. Allez,
ça
c'est de l'insulte, il n'y a aucune raison d'insulter qui que ce soit.
Je n'insulte pas la connerie, c'est pas de
Si, si, voici Radio Elvis avec Solarium.
Solarium, premier jour de printemps, alignons le désert, faisons le point sur nos révélations. Déjà les choses t'échappent, dans le départ proche, autour de toi s'écroule ce que tu croyais là. Immobile en surface, voyage au bout du monde. Le moindre bruit s'efface dans l'étendue évase. Et n'être plus qu'une ombre, la menace d'un vestige. Autour de toi s'écroule ce que tu croyais là. Solarium, et là tu sens, c'est là, chaleur qui te prend. Et là tu sens, c'est la hauteur qui te prend. C'est l'heure où l'on se presse pour rassembler nos fièvres, les porter à nos lèvres en un souffle premier. Le son et la lumière s'imposent à ton éveil. Là, quelque chose existe, là, quelque chose existe. Est-ce le vide qui s'avance ou l'instant qui nous guide? Là, quelque chose existe, là.
C'était Radio Elvis avec Solarium tout de suite.
C'est un peu court.
C'est bien.
Qu'est-ce que ça passe vite.
Quand c'est bon, c'est ça. Voici des excuses, Daniel Morin.
Ah oui, je vais en faire. Désolé pour les gauchistes de France Inter dont l'haleine de putois mort a été critiquée par la femme maréchale Galache.
Oh, écoutez.
En même temps, pour avoir croisé Patrick Cohen ce matin à la machine à café, enfin bon. Ben. Désolé pour les pervers fans de Laurent Fabius qui ont pu découvrir qui il était. Ouais, plombant dès le plus jeune âge. Ouais, on ne se refait pas. Désolé pour Jean-Marc Morandini. Ce matin, on a eu un méga scoop, un truc incroyable. Pierre Belmar a eu un passé de transsexuel. Et oui, je le cite, son énorme touffe sur les toits de Paris pendant l'occupation. Et on ne savait pas, mais on est heureux de l'avoir découvert.
Pierre. Vous l'avez dit, Pierre. Non, mais regardez pas comme ça, vous l'avez dit. Les balades.
Loin du front, au fil du.
Ah, ma touffe, c'était mes cheveux, bien
mais
sûr.
Oui. Et je vous le dis, dans le bleu de vos yeux, je vous aime, Pierre Belmar. Merci mille fois d'avoir été notre ami.
On vous retrouve
je
dans 88 ans.
Ces sentiments, monsieur.
C'est une bonne journée. Ce sont les carnet de campagne de Philippe Bertrand.
Bon week-end.
Merci la bande. À lundi.